Nous abordons le sujet de l'enseignement sur Israël dans l'Écriture et du sionisme à la demande qui est venue de l'Église. Mais je souligne qu'il y a une actualité redoublée juste ces semaines-ci du sujet en cause. D'une part, c'est le mois dernier que l'État d'Israël a fêté le 70e anniversaire de sa fondation. 14 mai 1948. Et d'autre part, vous savez quel remous la décision du président des États-Unis, Donald Trump, de transférer l'ambassade des États-Unis en Israël à Jérusalem, alors qu'elle était à Tel Aviv. Vous savez quel remous cela a produit et quelle est l'explication principale que les médias ont donné de cette décision. C'est, a-t-on dit, pour plaire aux évangéliques sionistes qui sont nombreux aux États-Unis et qui ont été nombreux parmi ses électeurs. Vous voyez à quel point le sujet du sionisme peut nous concerner aujourd'hui. C'est un sujet qui, comme notre pasteur vient de le rappeler, divise les chrétiens évangéliques. Pourquoi ? Je pense qu'il y a deux raisons principales aux différences de position qu'on peut reconnaître. En tout cas, il y a deux facteurs qui jouent. Il y a d'une part que les prophéties de l'Écriture sont en cause et leur interprétation. Or, le genre prophétique est difficile à interpréter. Il y a pratiquement sur toutes les prophéties, en tout cas tant qu'elles ne sont pas accomplies d'une manière absolument évidente et incontestable, des différences de lecture importantes sur toutes les prophéties, parce que c'est de cette façon que le Seigneur révèle l'avenir, d'une façon qui peut quand même impliquer une marge importante entre les lectures diverses qu'on en fait. Le deuxième facteur qui joue, c'est que chacun réagit en fonction de l'information qu'il a. Or, nous n'avons pas, sur les sujets en cause d'actualité ou d'histoire relativement récente, la même information, elle ne nous atteint pas de façon égale et parfois de façon suffisamment vérifiée. Nous pouvons être piégés par la manière dont les médias nous communiquent ce qui vaut effectivement des événements en Israël aujourd'hui. Et les fake news, comme on dit, les nouvelles truquées, elles sont très nombreuses à propos précisément de l'État d'Israël et de ce qui se passe sur le territoire d'Israël. Nous devons nous rendre compte que nous pouvons être piégés. Moi, ce qui m'a servi de leçon, ça ne concernait pas du tout Israël, c'était la manière dont j'ai été, comme tout le monde pratiquement, trompé par ce qui a été présenté comme des vues sur les écrans de télévision au moment de la chute du dictateur Ceausescu. Moi, je n'ai pas la télévision, mais j'étais chez des amis, j'ai vu ces photos de tous les cadavres à Timișoara, je crois, etc. Voilà, ça me semblait tout à fait évident. Et puis, on a su par la suite que c'était un montage, que c'était purement fabriqué. Donc, ça peut arriver, ce que les médias nous présentent, et même quand les vues semblent des vues qui ne laissent aucun doute, ça peut être des fabrications de mensonges. Alors, nous devons faire donc très attention. En plus, sur cette question, les passions flambent. Il y a certaines questions qui, parmi les évangéliques, impliquent des désaccords, mais tout le monde accepte assez bien. Et puis d'autres où les passions brûlent. Et c'est une des questions où les passions brûlent. Alors nous avons à demander au Seigneur une grâce spéciale d'écoute et de tolérance fraternelle à propos de ce que nous allons voir ensemble. Alors j'ai quatre parties. J'espère aller assez vite pour qu'il y ait vraiment un temps important pour les échanges. Je vais éviter de donner des détails et des développements. J'en ai dans mes fiches. Hein. Et pendant le moment des questions, je pourrais peut-être répondre à certains points plus particuliers. Mais je vais essayer donc d'être assez squelettique dans ma présentation. D'abord, dire ce qu'est le sionisme, donner quelques repères historiques à ce propos. Ensuite, essayer de voir pourquoi un certain nombre de chrétiens évangéliques soutiennent le sionisme, se joignent à lui, lui donnent leur sympathie. Ensuite, essayer de résumer la vision biblique d'Israël en général, pour aboutir, en quatrième partie, à une évaluation de ces raisons et motifs qui poussent un certain nombre d'évangéliques du côté du sionisme. Voilà le cheminement, l'itinéraire que je vous propose. Et je prends comme texte de référence une parole qu'on trouve au chapitre 11 de l'Épître aux Romains. Les chapitres 9 à 11 de l'Épître aux Romains sont la partie de la Bible où la vision inspirée de Dieu sur Israël est la plus développée. Cela n'est pas douteux, et en particulier le chapitre 11 pour tout ce qui concerne l'avenir d'Israël par rapport au temps du Nouveau Testament. Et à propos donc de ces compatriotes juifs qui ne reconnaissent pas en Jésus leur Messie, l'apôtre Paul dit au verset 28, « Du point de vue de la bonne nouvelle de l'Évangile, ils sont ennemis à cause de vous, vous les chrétiens venus du paganisme, non-juifs, les chrétiens non-juifs. Mais du point de vue du choix de Dieu ou de l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. » Voilà la complexité que l'apôtre indique par ces deux formules, ennemi du point de vue de l'Évangile, aimé du point de vue de l'élection, et il faudra que nous préservions ce même type d'équilibre dans notre traitement. Tout d'abord, qu'appelle-t-on sionisme ? Le mot sionisme vient évidemment du nom Sion, Sion en hébreu, qui désigne une des collines de Jérusalem. D'après les spécialistes, il semble que le nom ait été transféré, que c'était d'abord une colline plutôt à l'est de Jérusalem, puis ensuite, au premier siècle de notre ère en particulier, c'est une colline à l'ouest qui a été nommée de cette façon. De toute façon, c'est Jérusalem. Et le sionisme, ce n'est pas seulement l'amour de Jérusalem, c'est une tendance, une thèse qui affirme que le lien à la terre d'Israël, si on l'appelle ainsi, Palestine, c'était le terme que les Romains utilisaient, qui vient du mot philistin. Et Palestine, Israël, aujourd'hui c'est devenu un enjeu, quand on choisit de dire Israël ou quand on choisit de dire Palestine. Que le lien à cette terre, avec l'ancienne capitale de David, Jérusalem, est essentiel à l'identité juive. Qu'il y a un lien qui implique, au bout du compte, que ce doivent être les juifs qui habitent ce territoire et le dominent, qu'ils y aient le pouvoir qu'ils n'ont pas eu pendant 2000 ans. Voilà, en gros. Le sionisme, donc, c'est une tendance qui appelle au retour en Israël d'un nombre important de ceux qu'on appelle juifs ou israélites et l'affirmation qu'ils ont le droit de dominer ce territoire particulier. Ce qu'on pourrait appeler la préhistoire du sionisme, c'est tout d'abord l'attachement précisément des Juifs, malgré leur dispersion dans d'innombrables pays pendant des siècles et des siècles, l'attachement qu'ils ont gardé pour le territoire de leurs ancêtres et pour Jérusalem. Je ne sais pas de quand date cette formule, mais je crois qu'elle est assez ancienne. Au moment de la célébration de la Pâque, chaque année, les Juifs se disent, paraît-il, l'an prochain à Jérusalem. Et ça, ça date d'avant le sionisme proprement dit. C'est un attachement qui s'exprime dans un psaume, hein, si Jérusalem, si je t'oublie, que ma droite se dessèche. Il y a cela qui est en arrière-plan. Il y a aussi des mouvements de faux messies qui ont prêché le retour à diverses reprises, en particulier au XVIe et au XVIIe siècle. Le retour dans la terre d'Abraham. Et puis c'est plus spécialement au XIXe siècle alors qu'on voit se préparer le mouvement sioniste actuel et moderne. Et il y a eu là l'intervention d'un certain nombre d'intellectuels juifs, mais il y a eu aussi intervention d'un certain nombre d'évangéliques. Et par exemple, Lord Shaftesbury, qui est une grande figure évangélique en Angleterre au XIXe siècle, a préconisé un retour des Juifs dans la terre d'Israël. Le point de naissance du mouvement, on le date très précisément de 1897. Le mouvement sioniste, proprement dit, a été fondé par un congrès à Bâle, premier congrès sioniste à Bâle, en 1897, réuni par un journaliste, intellectuel, écrivain, autrichien, juif autrichien, qui s'appelait Theodor Herzl. C'est lui qui peut être considéré comme le père du sionisme moderne. Il n'était pas religieux. Ce n'était pas un juif religieux. Ce qui l'a motivé sans doute principalement pour la fondation de ce sionisme, avec les grands traits que je viens de rappeler à son propos, c'est tout spécialement le déchaînement d'antisémitisme en France à l'occasion de l'affaire Dreyfus. Vous connaissez cette histoire qui a déchiré les Français. Le capitaine Dreyfus, qui était juif, a été accusé de trahison, ça n'était pas, mais il y a des officines de l'armée d'alors qui ont fabriqué des pièces fausses pour l'accuser. Il a été dégradé, il a été envoyé en forteresse, mais des gens se sont rendus compte que c'était à tort qu'on l'accusait. Donc il y a eu un parti de Dreyfusard, un article d'Émile Zola, j'accuse, et ça, l'affaire a déchiré la France, mais elle a été l'occasion d'un déchaînement d'antisémitisme. Pour Herzl, ça a été un signe extrêmement négatif, parce que la France était à ce moment-là, pour les divers juifs d'Europe, le pays phare de la tolérance, de l'ouverture, de la reconnaissance des juifs comme citoyens à part entière. C'était la Révolution française qui avait permis cet accès à la pleine citoyenneté, et alors que d'autres pays étaient à la traîne et qu'il y avait des pogroms à l'est de l'Europe, en France, le pays des droits de l'homme, bon, et voilà l'antisémitisme. Alors c'est ce qui l'a motivé tout spécialement pour dire non, il faut que les juifs cessent d'être dispersés dans toutes les nations, mais qu'ils reviennent dans la terre de leurs ancêtres. Alors le mouvement s'est constitué et a commencé par une colonisation de la terre d'Israël progressive. Ça a commencé assez petitement. Le pays était sous la domination turque, ottomane, c'était l'Empire ottoman. Hein, et il s'agissait simplement d'acheter des terres. Et les terres ont été achetées en grande partie grâce aux subsides de la famille Rothschild et du baron Edmond de Rothschild à Paris, en particulier. Ça a commencé assez petitement. Le mouvement d'ailleurs a tendu à se diviser après quelques années, au début du XXe siècle, parce que l'Empire britannique a proposé une région complètement dépeuplée en Ouganda, en disant, mais vous voulez un territoire, vous voulez reconstituer un État d'Israël, eh bien, allez en Ouganda, nous vous offrons. Et il y en a un certain nombre dans le mouvement sioniste qui disaient d'accord. Mais finalement, ce n'est pas ce qui l'a emporté. Puis au début du XXe siècle, il y a eu aussi un mouvement qui est né plutôt à l'est de l'Europe, de sionistes religieux, puisque Herzl n'était pas religieux. Vous voyez comment les choses se sont engrenées, et vers 1914, on comptait environ 90 000 juifs qui s'étaient établis dans le territoire, environ. La Première Guerre mondiale a éclaté et elle a commencé à changer beaucoup les choses. La raison principale, ça a été que la Turquie, l'Empire ottoman, était l'allié de l'Allemagne et de l'Autriche. Donc les ennemis, d'une part de l'Angleterre et de la France, d'autre part de la Russie, puisque c'était les alliés, dans cette guerre. Donc du coup, la puissance occupante dans la terre d'Israël-Palestine était maintenant l'ennemi pour les Anglais, qui étaient très présents autrement au Moyen-Orient. Et les choses donc ont évolué de telle sorte qu'en 1917, le ministre des Affaires étrangères, disons, Lord Balfour, en Angleterre, a émis une déclaration qui était très nettement contraire aux intérêts turc-ottomans. Une déclaration disant que le gouvernement de Sa Majesté, j'ai ici le texte même, le gouvernement de Sa Majesté considère favorablement l'établissement en Palestine d'un foyer national pour les Juifs. Alors c'est le mot foyer, c'est pas le mot État. Un foyer national, c'est le mot home en anglais, pour les Juifs. Et il ajoutait, étant bien entendu que rien ne sera fait qui pourrait léser les droits civils et religieux des communautés non-juives en Palestine. Et cette assurance par rapport au respect de ceux qui étaient dans le pays, parce qu'il y a eu un slogan qui a circulé, mais qui était absolument faux, disant voilà un peuple sans terre qui va pouvoir occuper une terre sans peuple. Non. La terre n'était pas du tout sans peuple. Il y avait une population qui était là sur place. Et le gouvernement britannique le savait bien. Les assurances que leurs intérêts seraient protégés ont été réitérées par le ministre des colonies en 1922, qui était Winston Churchill, qui a encore l'a répété. Et la Turquie et l'Allemagne ont été vaincues, comme vous le savez, donc ce sont les vainqueurs qui ont établi un ordre nouveau pour le Moyen-Orient, avec cette déclaration Balfour pour servir de règle, et tout le pays a été mis sous tutelle britannique. C'est comme un protectorat sous la responsabilité des Britanniques que cette ancienne partie de l'Empire ottoman, maintenant qu'il n'était plus sous domination turque, a été placée dans l'entre-deux-guerres. Alors le mouvement de colonisation par achat de terres s'est poursuivi pendant tout ce temps-là, et d'après les chiffres que j'ai vus, c'est 300 000 juifs et colons qu'il y avait en 1935, et puis ça a continué encore. Alors les populations locales se sont rendues compte qu'elles étaient peu à peu dépossédées du pays par cette entrée nombreuse, et elles n'avaient pas les finances voulues pour conserver les terres, puisqu'il y avait les Rothschild, etc., qui finançaient les achats. Donc il y a eu des révoltes, mais elles ont été réprimées par les Britanniques pendant ce temps-là. Sur ces entrefaites, la Deuxième Guerre mondiale a éclaté, avec la tentative d'extermination des Juifs par le régime nazi. Là encore, des liens internationaux, le grand moufti de Jérusalem, par exemple, qui voulait réagir contre cette présence des Juifs sur le territoire, a montré ses sympathies nazies, a cherché une alliance avec les nazis. Et oui, puisqu'il était contre les Britanniques et contre cette occupation par des Juifs qui venaient en très grande majorité de pays qui n'appartenaient pas à l'axe que dominait l'Allemagne. Donc vous avez eu une des tensions qui ont persisté et même qui se sont accrues au cours de la Deuxième Guerre mondiale. Cette Deuxième Guerre mondiale, vous le savez, comment elle s'est achevée, par la défaite des puissances dites de l'Axe. Et donc ce sont les mêmes alliés qu'au XIXe siècle, pour la Première Guerre mondiale, je veux dire, qu'en 1918, ce sont les mêmes alliés qui ont gagné et qui ont donc établi leur régime. Le nombre des Juifs, avec tous ceux qui avaient tenté d'échapper à la Shoah, le nombre de ces Juifs s'est encore accru sur place pour atteindre environ 900 000 à ce moment-là. Et il y a eu un épisode qui ressemble à certains égards à celui de l'Aquarius de ces jours-ci, hein, de ce matin même. L'Exodus, un vieux rafiot chargé de centaines et de centaines de Juifs qui avaient échappé à la Shoah, que les Britanniques ont refusé de laisser débarquer les passagers sur la côte, parce qu'ils voulaient garder certains équilibres, ils avaient une politique arabe, etc. Vous voyez ? Finalement, les Alliés, et là, ce n'est pas les Britanniques étaient plutôt là très réticents, les Alliés, c'est-à-dire les Américains et les Russes, ont poussé à la satisfaction de la demande des sionistes, à savoir qu'un État soit fondé en Israël, avec division du pays quand même, hein, division, une partie seulement du pays. Et donc en 1948, un État d'Israël a été fondé, avec une très grande partie quand même du territoire qui restait sous la domination de la Transjordanie, de la Jordanie, c'est ce qu'on appelle la Cisjordanie, et avec Jérusalem, qui était aussi sous l'autorité jordanienne, non juive. Oui. Tout cela n'était pas satisfaisant ni pour les uns ni pour les autres, et il y a eu guerre civile, première guerre civile qui s'est produite un peu avant, ça a éclaté, avant la déclaration, parce qu'on la voyait venir, de la fondation de l'État d'Israël, jusqu'en 1949, première guerre civile. Au début, on a eu l'impression que les armées des pays arabes, parce qu'il y a eu solidarité des pays arabes alentour, allaient complètement écraser cette population juive peu nombreuse quand même dans le territoire. Mais finalement, ils ont échoué. Et ce sont les Juifs qui ont gagné, une très efficace organisation du terrorisme, et d'une part le soutien du président Truman aux États-Unis et le soutien de Staline, Joseph Staline, qui a fait livrer des armes depuis la Tchécoslovaquie. Pourquoi est-ce que Staline était si favorable à cet État d'Israël, sans quoi il n'aurait sans doute pas pu être fondé avec l'accord de l'ONU? Parce que les leaders du sionisme de l'époque étaient pratiquement tous socialistes. Et du coup, Staline avait vraiment l'impression que c'était dans un État dont il allait pouvoir faire son allié, sinon son vassal. Oui. Oui. Donc l'État a été fondé. Victoire, à ce moment-là, des sionistes qui ont fondé leur État, mais plusieurs guerres qui ont suivi. Chaque fois, ça se relançait. Parce que les populations autochtones palestiniennes se jugeaient très gravement lésées, victimes d'une injustice majeure. D'ailleurs, il y avait eu plus d'un million, sans doute, de ces occupants palestiniens, de ces paysans qui occupaient les terres, qui avaient été obligés de s'exiler, chassés. Alors, chassés par un certain terrorisme et l'armée d'Israël, mais chassés aussi parce que les armées arabes qui intervenaient sur le même sol jugeaient préférable de vider le pays pour avoir de quoi accuser Israël. J'ai un texte du président Mahmoud Abbas, qui est le président actuel de l'autorité palestinienne, qui, c'est un texte un peu plus ancien, qui dit que ce sont les armées arabes qui ont été grandement responsables de cet immense exode de populations autochtones sur la terre d'Israël. Et au lieu de les accueillir dans les différents pays arabes du Moyen-Orient de l'époque, dont ils expulsaient les Juifs, il y aurait eu à peu près le même nombre. Ils les ont parqués, ils ont préféré les parquer dans des grands camps de réfugiés, nourris par l'ONU. C'est l'ONU qui s'est occupée de ces réfugiés. Et ces camps de réfugiés existent jusqu'à nos jours, avec le sentiment d'une injustice majeure, correspondant à la Shoah pour les Juifs, c'est la Nakba, la catastrophe de cette dépossession des terres ancestralement possédées par les Palestiniens, chassées par l'État d'Israël. Et le combat contre Israël a été conjoint avec le combat contre le capitalisme et l'impérialisme américain. Donc vous avez eu cette grande opposition, ce n'est pas fini encore aujourd'hui. Et l'antisionisme s'alimente encore à ce sentiment contraire à l'impérialisme américain. Toute l'affaire de Gaza, qui est une enclave palestinienne, pourrait-on dire, qui subsiste dans sa distinction, donne l'occasion d'accuser l'impérialisme américain très, très, très constamment. Alors il y a eu une guerre en 1956, au moment où les Britanniques et les Français ont essayé de prendre le canal de Suez, une opération qui a échoué parce que la Russie et les États-Unis ont dit non. Puis il y a eu la guerre des six jours en 1967, et ça a été extraordinaire. En quelques jours, ce petit État d'Israël, mais c'est un mouchoir de poche, qui a triomphé de toutes les armées arabes alentour, avec reconquête de Jérusalem, ça a eu des allures de miracle. Et je crois que c'est une des raisons pourquoi un certain nombre de chrétiens évangéliques sont sionistes. Je me rappelle, dans notre église, c'est Madame Berger, Madame Yvonne Berger, qui m'a raconté que le jour même où éclatait la guerre des six jours, le verset sur le calendrier journalier biblique, c'était « Vous allez voir la différence que je fais entre les Égyptiens et vous », le texte de l'Exode. Ça paraissait un miracle. Oui. Puis il y a eu la guerre du Kippour en 73, et là, la défaite n'a pas été loin. C'est un peu in extremis qu'Israël s'est rétabli. Là, le pays aurait quasiment pu être détruit. Alors ça a été le dernier très grand conflit, bien qu'il y ait eu des conflits encore à la frontière du Liban, etc. L'histoire donc de l'État d'Israël depuis 70 ans, c'est l'état de cette tension entre la pensée sioniste, alors vous avez diversité de degrés, les sionistes radicaux qui sont établis en Israël et qui sont assez bien représentés par l'actuel gouvernement, qui est un gouvernement dit de droite, hein, avec Benjamin Netanyahou. C'est que le droit d'Israël, c'est le grand Israël, c'est depuis le fleuve d'Égypte, c'est-à-dire un torrent qui fait la frontière, jusqu'à l'Euphrate, c'est là le grand Israël, et il faudrait reconstituer le grand Israël sous l'autorité exclusive des Juifs, avec Jérusalem uniquement pour les Juifs, avec la mosquée éliminée, etc. Vous avez cette tendance, et puis vous avez la tendance opposée qui brandit l'étendard anti-sioniste. Et il est certain que l'accusation lancée contre le sionisme est une occasion d'un nouvel antisémitisme, assez différent de l'antisémitisme des siècles précédents. Voilà pour le résumé de ce qu'est le sionisme. Comment un certain nombre de chrétiens évangéliques sont-ils amenés à soutenir cette tendance, et souvent même jusqu'aux formes les plus radicales. Je pense que le sentiment que tout le pays d'Israël, le royaume, les frontières du royaume de David et de Salomon, par exemple, que tout ce territoire doit revenir aux Israélites, est lié à un certain type d'interprétation de l'Ancien Testament, de quelques textes du Nouveau Testament aussi, qu'on appelle le dispensationalisme. Ce type d'interprétation, vous le trouvez dans les notes de la Bible Scofield, par exemple. Et le trait le plus particulier de ce système d'interprétation, c'est le refus de considérer que l'Église accomplit les promesses pour Israël. La manière dont, depuis les pères de l'Église, on interprète beaucoup des prophéties de l'Ancien Testament, c'est en disant elles sont accomplies, pas littéralement, mais il faut voir le sens spirituel, sont accomplies dans l'Église. Et c'est cela que refuse le système dispensationaliste. Il disjoint ce qui concerne Israël de ce qui concerne l'Église. Lié à la diffusion de ce système d'interprétation, la conviction de base, me semble-t-il, qui opère très puissamment, c'est qu'Israël est le peuple de Dieu. Je pense que si vous demandiez à la plupart des évangéliques sionistes pourquoi ils soutiennent Israël, ils vous diraient « c'est le peuple de Dieu, c'est le peuple élu, donc il faut être de son côté ». Dieu l'a choisi, donc être du côté d'Israël, c'est être du côté de Dieu. Et il ne faut pas regarder plus loin, nous sommes dans la ligne de ce vrai Dieu. Donc c'est la conviction déterminante. Associé à cette conviction, il y a deux points qui sont, me semble-t-il, très importants aussi. Il y a le sentiment que le retour en Israël d'un nombre important, une minorité quand même, hein, encore à ce jour, mais de ceux qui se disent juifs dans le monde, est un accomplissement des prophéties. Et c'est cela qui ressort, je crois, chez beaucoup. On l'appelle ce retour la Aliyah, c'est-à-dire la montée, hein, l'ascension. Aliyah, parce qu'on montait à Jérusalem. Jérusalem est assez sur la hauteur, et donc c'est la Aliyah qui est le terme qu'on emploie pour ce grand mouvement qui a abouti maintenant à plusieurs millions, je ne sais pas si on atteint tout à fait les 10 millions, mais de ceux qui se disent juifs ou israélites qui sont revenus en Israël. Il y a encore une majorité ailleurs, en particulier en Amérique, mais c'est quand même très significatif, et on dit que ce sont les prophéties qui s'accomplissent. Et puis l'autre grand facteur, me semble-t-il, c'est la pensée que la terre a été promise à Abraham et sa descendance pour toujours. L'alliance abrahamique le stipule dans divers passages, et par exemple, vous avez Genèse 13, 15 et Genèse 17, 8 qui emploient l'un et l'autre, ces deux versets, le terme qui se traduit habituellement par éternel ou éternité. Donc, c'est cette conviction qui appuie l'idée d'un droit selon Dieu, de tous les descendants selon la chair d'Abraham, selon la lignée d'Isaac et Jacob, un droit sur cette terre et cette terre entière, le grand Israël, comme on l'appelle. Alors les opposants, ceux qui ne sont pas d'accord, ils ne sont pas d'accord avec le système d'interprétation, nous allons encore en dire un mot, mais ils se placent le plus souvent sur le terrain éthique, le terrain de la morale, de la justice si vous voulez. Ils constatent qu'il y avait une population qui était assez pauvre et pacifique sur place, elle était dominée par les Turcs, mais qui était établie depuis des siècles et des siècles sur ce territoire, et que cette population a été chassée. Dans certains cas, les terres ont été achetées, mais il y avait une telle disproportion de moyens financiers que c'était quand même injuste. Ils étaient en quelque sorte contraints par une force économique supérieure, quand ce n'était pas les armées elles-mêmes qui les chassaient. Donc, c'est ces sentiments d'injustice qui prédomine et avec la connexion qui est faite avec la lutte anticolonialiste et anti-impérialiste. De manière très, très générale, c'est ce qu'on a trouvé. Le changement de sentiment au sein du Conseil œcuménique des Églises est assez significatif. Au temps de la fondation d'Israël, c'était plutôt pro-Israël. Et puis le mouvement a pratiquement complètement changé. Et aujourd'hui, et depuis plusieurs dizaines d'années, le sentiment dominant dans les rassemblements du Conseil œcuménique des Églises est pro-palestinien, essaye de soutenir le droit des Palestiniens à un retour, à une suffisante indemnité, pour des raisons éthiques et aussi politiques, plus ou moins liées à des thèses de gauche sur le plan politique. Je crois que je résume assez bien les raisons principales qui conduisent à soutenir le sionisme du côté d'un certain nombre d'évangéliques. Alors maintenant, la vision biblique d'Israël, ce que je suis prêt à soutenir devant vous. Israël, c'est une descendance d'Abraham. Là, Dieu a très clairement fait la distinction. Ismaël était un descendant selon la chair, mais il n'hérite pas de ces promesses-là, même si Dieu s'occupe aussi de lui. C'est une descendance d'Abraham qui a été choisie pour entrer en alliance avec Dieu, devenir son peuple, l'image du mariage ayant aussi été employée souvent par les prophètes, par Osée et beaucoup d'autres, pour décrire cette alliance entre Dieu et le peuple. C'est comme l'épousé du Seigneur qui est l'époux, qui a pris pour nom le surnom donné à Jacob après sa lutte avec l'ange de l'Éternel, Israël. Voilà le statut premier et principal d'Israël dans les perspectives bibliques. Alors il y a deux précisions qu'il faut tout de suite ajouter. Premièrement, ce privilège du choix divin, ce privilège n'exempte pas du jugement. Au contraire, Amos 3, verset 2, « Je n'ai choisi que vous parmi toutes les familles de la terre, c'est pourquoi je vous jugerai plus sévèrement. » Le privilège d'Israël ne signifie pas que du point de vue éthique, alors sa conduite soit à approuver. L'élection dans l'Ancien Testament, selon le témoignage de tous les prophètes, laisse la question du jugement très distincte. Il peut y avoir condamnation, il peut y avoir punition de la part de Dieu, et en fait, c'est ce qui arrive. Bien que le peuple soit le peuple élu, le peuple de Dieu. Et il est très clair dans l'Ancien Testament déjà que ce n'est pas l'appartenance à ce peuple élu qui donne la vie éternelle, qui assure aux individus qui sont descendants d'Abraham, Israël, Isaac, Jacob, alors la certitude qu'ils seront sauvés. Pas du tout. La circoncision de la chair ne vaut rien, il faut la circoncision du cœur, disent les prophètes sans arrêt. Ça, c'est la première précision. Deuxième précision qui apparaît déjà dans l'Ancien Testament, cette élection est en vue d'un autre temps. C'est une élection qui a un caractère préparatoire. C'est pour une autre alliance qui sera la nouvelle alliance que Dieu déroule toute sa conduite avec le peuple d'Israël. Jérémie 31 parle de cette nouvelle alliance qui ne sera pas comme la première, qui impliquera une œuvre de Dieu dans les cœurs. Et donc, c'est avec une expression, c'est l'Épître aux Hébreux qui le dit, une expression de blâme pour l'Israël de la première alliance que cette prophétie donc est déroulée. Et les prophètes annonce qu'il y aura un tri parmi les Israélites selon la chair au moment précisément où ce temps nouveau poindra et où viendra le Messie. À ce moment-là, le peuple de Dieu sera entièrement composé de justes, ce qui n'est pas le cas sous l'Ancien Testament, où c'est un peuple charnel qui bénéficie de cette alliance avec Dieu. le grand tri, il s'est produit avec la première venue de Jésus. C'est ce qu'a annoncé Jean-Baptiste. Voilà, c'est maintenant ce royaume de Dieu annoncé est tout tout proche. Celui qui s'avance a son vent à la main, il nettoiera son air et il séparera la paille et le grain. À l'intérieur du peuple, il y a le grain de ceux qui sont au Seigneur pour la vie éternelle, par la foi, et les autres qui sont chassés, et c'est le feu qui les attend, hein, dans l'image que Jean-Baptiste déploie pour ses auditeurs à ce moment-là. Il est le précurseur de Jésus, et c'est par Jésus que ce tri se fait. Et ce tri nous est présenté sous la forme d'une image extrêmement parlante, significative, je crois, au chapitre 11 de l'Épître aux Romains, l'image de l'arbre. Il y a quelques arbres typiques de ce pays. Il y a le figuier, il y a la vigne et il y a l'olivier. Et c'est l'olivier que l'apôtre Paul choisit au chapitre 11 de l'Épître aux Romains pour nous dire ce qui se passe. L'olivier, c'est Israël. Les racines, ce sont les patriarches, Abraham, Isaac, Jacob. Cet olivier, il a des branches, il a grandi tout au long de l'histoire de l'Ancien Testament. Qu'est-ce qui arrive au moment où l'apôtre Paul se situe, au premier siècle de notre ère, lors de la première venue de Jésus-Christ? Il y a des branches qui sont dans cet olivier, donc des Israélites, qui sont des Israélites selon la chair, qui sont nés d'une famille de cette nation, qui reconnaissent en Jésus le Messie et qui restent par la foi donc dans l'olivier, qui continuent de bénéficier, c'est la continuité. Mais il y en a, et malheureusement un grand nombre, et les autorités en particulier, qui refusent de reconnaître en Jésus le Messie promis. Comment sont-elles représentées dans la vision que brosse l'apôtre? Ce sont des branches coupées. Elles étaient dans l'olivier, elles sont coupées à cause de leur incrédulité face à l'Évangile. Elles deviennent, selon l'expression du verset que j'ai cité, ennemies à cause de l'Évangile. Et que se passe-t-il encore? Des branches d'un autre olivier sauvage, qui ne portait pas de bons fruits, sont coupées de cet olivier-là et sont greffées sur l'olivier Israël. Ce sont les croyants d'origine non-juive, donc un autre olivier sauvage, qui sont introduits dans l'olivier Israël, qui deviennent concitoyens des saints, qui appartiennent désormais à l'Israël de Dieu par l'action de l'Esprit qui les greffe à l'intérieur de cet olivier. Donc, vous voyez, le tri se fait entre les branches qui ont accueilli le Messie, les branches qui ne l'ont pas accueilli et qui sont retranchées. Et elles ne sont plus dans l'olivier. Elles sont ennemies à cause de l'Évangile, par rapport à l'Évangile. Vous voyez à quel point l'expression de peuple de Dieu devient ambiguë à ce moment-là. Peuple de Dieu, oui, ils sont les descendants de celui qui avait été choisi comme le peuple de Dieu de l'ancienne alliance. Mais nous sommes maintenant dans le temps de la nouvelle alliance, et là, ils sont représentés par des branches coupées. Ça, c'est très clairement ce qui ressort de l'image brossée par l'apôtre Paul, et aussi de beaucoup d'autres passages du Nouveau Testament. Mais attention, on se rappelle quand même qu'ils viennent de l'olivier, du bon olivier Israël. Ils sont ennemis à cause de l'Évangile, ils sont coupés, ils ne sont plus dans la communion du Seigneur, dans son alliance, mais à cause des pères, parce qu'ils viennent quand même de cet olivier, ils sont encore aimés. Ces branches coupées ne sont pas à mettre exactement dans le même fagot que les branches coupées de n'importe quels autres arbres. Il y a quelque chose de spécial qui les marque encore, ces Israélites selon la chair, qui ne sont pas sauvés pour autant, mais qui ont la marque de l'élection divine de leurs ancêtres, Abraham, Isaac, Jacob. Et ce fait qu'il y a une marque spéciale, un statut spécial pour eux, signifie qu'il y a aussi un avenir spécial pour eux. Vous voyez là le point qui va faire la connexion peut-être avec la question du sionisme. Dieu a un avenir spécial pour ses branches coupées. L'apôtre Paul dit surtout, Dieu peut les regreffer. Et vous donc qui avez été greffés par grâce dans cet olivier, ne vous vantez pas trop. Ne faites pas les malins. Mais Dieu dit, il peut les regreffer. Mais il me semble qu'il va un peu plus loin. Alors tous les évangéliques ne sont pas d'accord pour dire ça. Je pense qu'il dit, Dieu va le faire. Va le faire à la fin des temps, avant le retour de Jésus. C'est le dernier grand épisode qui va se produire quand la plénitude des païens, quand tous les païens qui doivent se convertir, les païens, les non-juifs, hein, qui doivent se convertir seront entrés, alors l'endurcissement sur Israël, l'endurcissement d'incrédulité, va être levé et le salut va leur être communiqué. La conversion d'Israël, une conversion massive, comme quand un grand réveil éclate qui touche tout un pays, une conversion massive va avoir lieu. C'est comme ça que je crois qu'on lit le mieux le chapitre 11 de l'Épître aux Romains. Je vous signale d'ailleurs ce qui m'en a le plus convaincu. C'est comme ça que je lis le texte depuis longtemps. Mais M. Georges Moukari, que tous les anciens se rappellent, a fait son mémoire de maîtrise, sous ma direction d'ailleurs, à Vaux-sur-Seine, pour démontrer le contraire. Et il a fait un très beau travail, hein, mais il ne m'a pas convaincu. Alors, je me suis dit, si lui, dans un si beau travail, essayant d'éliminer complètement l'idée de cette conversion massive et future d'Israël, n'y réussit pas vraiment à mes yeux, donc c'est que personne n'y réussira, et que c'est bien la lecture qui y voit, qui est une lecture très, très répandue parmi les évangéliques, hein, d'une conversion future d'Israël. Donc, un avenir. Est-ce que cet avenir touche l'occupation du territoire? Est-ce qu'il y a un lien avec l'État d'Israël? Là, j'estime qu'il y a lieu d'hésiter. Je suis persuadé, j'ai enseigné un cours sur les prophètes pendant plusieurs dizaines d'années, hein, je suis persuadé que au moins 95% des prophéties que les sionistes, les chrétiens, citent en disant c'est l'accomplissement dans l'État d'Israël, que là c'est une erreur de lecture, qu'ils se trompent, que ces prophéties ont été accomplies autrement. Donc, mais je dis 95%, je n'exclus pas qu'il y en ait 5% les plus tardives dans l'Ancien Testament, dans le livre de Zacharie, et une ou deux références dans le Nouveau Testament qui peuvent suggérer en effet une restauration, qu'on pourrait dire, d'ordre sociopolitique d'Israël dans la terre ancestrale. Oui. Ça ne me paraît pas totalement impossible, c'est surtout la parole de Luc 21-24. Et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Foulée aux pieds, c'est-à-dire sous domination non-juive, les nations au sens non-juif, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Alors Jésus ne dit pas dans ce verset que après ça, ce sera de nouveau une autorité juive. Mais on pourrait dire que c'est une suggestion. Et c'est ce qui s'est produit en 1967. Pour la première fois depuis l'an 132, où il y avait une révolte juive, c'est une autorité politique juive qui domine à Jérusalem. Donc, il me semble que c'est une possibilité assez raisonnable d'interprétation. Mais l'essentiel, c'est la conversion. Parce que c'est comme ça que Dieu boucle la boucle. C'est comme ça que Dieu permet à son honneur de briller tous ceux qui ont eu la marque de son élection, finalement, seront réunis dans le peuple de Dieu, de la nouvelle alliance et de la vie éternelle. Alors, on peut voir la reconstitution d'un État d'Israël comme une mesure préparatoire pour cela. Dieu réunit un grand nombre de Juifs dans le même territoire pour susciter un grand réveil, puisque c'est de cette manière que la plupart des réveils se sont produits dans l'histoire, dans un territoire donné. C'est au moins une hypothèse. Alors, j'en arrive finalement à l'application au sionisme. Je suis prêt à admettre que le retour d'un certain nombre de Juifs, selon la chair, l'identité juive est complexe, mais selon la chair, dans la terre que Dieu avait donnée à Abraham, et que ce retour a une signification dans le plan de Dieu, selon ce que je viens de vous expliquer. Et donc nous pouvons y voir vraiment des signes que l'histoire conduite par lui s'approche de son aboutissement. Oui, je suis prêt, pour ma part, à souscrire à cette opinion. Mais, d'abord, ça ne justifie en rien les injustices commises. Là, du point de vue éthique, Dieu se sert des méchants et de leurs actes méchants pour accomplir ses plans. C'est dit plusieurs fois dans tout l'Ancien Testament, il a utilisé les Assyriens, les Babyloniens. Donc le fait que ce soit un accomplissement de prophétie, au moins qu'on puisse en admettre la possibilité, ne signifie pas qu'à l'heure il s'agit d'excuser les exactions commises, les torts, de nier les torts. Non, non, non. Le jugement d'ordre éthique peut être tout à fait disjoint de cette reconnaissance d'une intervention divine qui conduit les choses. Et à ce moment-là, alors, que dire de la situation? Les guerres, comme toutes les guerres, ont conduit à des atrocités des deux côtés, ont conduit à des injustices énormes des deux côtés. Mais sur la base de livres que je pourrais vous citer ou de titres tout à l'heure si vous voulez, mais j'ai lu des livres écrits par des évangéliques très compétents, me semble montrer que la plus grosse injustice a été commise en défaveur des Palestiniens, que là il y a effectivement eu un tort énorme qui a été commis. Mais vous voyez, plusieurs mais, parce qu'il faut tenir compte de la complexité des choses. Il y a un principe qui, je crois, doit être reconnu en droit, selon l'application de l'éthique, c'est le principe de la prescription. Au bout d'un certain temps, des situations de fait ne peuvent plus être remises en cause. Et s'il y a eu injustice à l'égard des Palestiniens, ce que je crois, globalement, je crois que ce n'est pas aux descendants de ceux qui ont commis ces injustices, après deux ou trois générations, qu'on a à le faire payer. L'État d'Israël existe et je pense qu'il a, selon le principe de prescription, un droit à l'existence. Donc, du point de vue éthique, je n'admets pas non plus les thèses antisionistes qui circulent, qui voudraient aboutir à l'extermination d'Israël ou au rejet dans la mer de tous les Israéliens. Je pense que ce n'est pas non plus conforme au droit tel qu'il s'exerce sous l'autorité divine dans l'histoire. Alors il reste la question de l'alliance abrahamique. Là, je crois pouvoir dire aussi que la clause à toujours, en Genèse 13, 15, etc., ne signifie pas que c'est un droit inaliénable qui se prolonge jusqu'aux lointains descendants de 3000 ans plus tard que peuvent prétendre être les Israéliens d'aujourd'hui. Il y a de très nombreux cas dans l'Ancien Testament où la formule « à toujours », avec le terme hébreu utilisé dans la Genèse, s'applique à des dispositions qui sont terminées d'après le témoignage du Nouveau Testament. Ça faisait partie du langage des traités d'alliance de l'Ancien Orient, ça ne signifie pas donc une perpétuité absolue. C'est jusqu'à ce que le suzerain décide de changer les choses. Voilà ce que ça signifie très souvent. Et cela est dit de la circoncision, des sacrifices, etc., qui, d'après le Nouveau Testament, sont clairement maintenant périmés. Ce n'est plus une obligation. Donc, je ne pense pas que ce soit un soutien solide que celui de la référence à l'alliance abrahamique. Donc, vous voyez, l'équilibre est difficile à réaliser exactement, mais je pense que nous avons à chercher à respecter, d'une part, les principes éthiques, un certain réalisme dans l'application de l'éthique à la politique et à la géopolitique aujourd'hui, et le principal de l'avenir que Dieu prépare, à savoir œuvrer pour ce grand réveil, ce grand retour au Messie et cette grande entrée regreffe dans l'Olivier Israël de ceux qui descendent d'Israël.